J'ai beaucoup de reconnaissance que vous soyez encore debout et alerte avec l'esprit qui fonctionne, parce que c'est, vous apprenez beaucoup de choses, vous voyez beaucoup de choses. Il y a une petite imprévision qui flotte sur cette conférence, si on veut bien l'appeler ainsi, c'est qu'il va y avoir un défilé militaire. Vous savez que Metz est une ville en partie militaire, et donc on voit les forces qui sont en train de se constituer là. Donc il est possible qu'à un moment on fasse une interruption musicale aussi, parce que la fanfare va défiler. Voilà. Et ma musique qui est souvent à bas voltage, qui est souvent, on m'appelle Gérard Peu de Son, à mon avis perdrait la partie avec le défilé. Je vais essayer de respecter les temps, de ne pas vous ennuyer, évidemment. J'ai prévu un programme assez précis, mais il est assez rare que je le respecte. Donc, c'est une conférence, bien sûr, mais je pense qu'il y aura des digressions. Parce qu'en fait, ce que j'aurai à vous dire ce soir, ce sont plutôt des questions que je me pose à moi-même, que je vous ai posé aussi à vous. Et d'un certain point de vue, si cette intervention, bon, conférence, c'est peut-être un peu formel, mais était un écho de ce qu'on a pu se dire entre compositeurs pendant les sessions de travail, je trouve que ça serait bien, puisque certains d'entre vous n'ont pas participé à ces classes. Et non pas que je donne ce soir une leçon, pas du tout, mais je pense que la façon dont nous avançons dans l'écriture est une suite de questions que nous nous renvoyons les uns aux autres. Donc aujourd'hui, avec au fond assez d'embarras et d'humilité, je soulèverai un certain type de questions. Alors je vais devoir m'expliquer sur le titre de cette conférence. J'aurais peut-être un peu de mal, parce que c'est un titre que j'ai choisi il y a longtemps. Et vous savez, des fois, quand on écrit de la musique, par exemple, on donne un titre parce qu'on nous demande, les décideurs de programme nous demandent la notice un an avant. Et parfois, la musique qu'on fait n'a plus de rapport avec le titre. Alors, donc peut-être là, ça sera le cas. Donc le titre de cette intervention, c'était « La composition comme auto-fiction, figure, portrait et substrat dans l'écriture musicale ». Alors, ça a l'air d'être un intitulé comme ça extrêmement savant, très universitaire. En fait, ça ne l'est pas. Je pose simplement la question à moi-même et à vous. Comment se constitue-t-on par l'écriture? C'est-à-dire, dans notre écriture, dans notre manière d'écrire la musique, qu'est-ce qui est à nous? Qu'est-ce qui nous est transmis? Qu'est-ce qui nous est absolument personnel? Qu'est-ce qui est emprunté? Tout ça est extrêmement ambigu, hein, et ce n'est pas ce soir que nous allons y répondre. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on réfléchisse autour de ça. C'est-à-dire, est-ce que écrire la musique, c'est un peu écrire un peu de son destin, c'est-à-dire ou faire un peu de son portrait. C'est-à-dire, est-ce que tout ce qu'on voit quand on regarde notre catalogue, si vous regardez vos œuvres, alors plus vous vieillissez, plus c'est comme un manteau, plus le manteau est de plus en plus lourd et long. Est-ce que quand vous regardez ce catalogue, est-ce que vous pouvez dire cela c'est moi, voilà. Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que simplement un écho du monde, un écho des gens que nous avons croisés? Et c'est une question qu'on se pose toujours dans un cours de composition. Qu'est-ce qui est à nous? Qu'est-ce qui n'est pas à nous? Ce n'est pas que nous ayons à revendiquer une propriété des idées, mais la question de l'idée artistique est tout de même au centre de ce questionnement. Et je ne sais pas si je le ferai de manière très ordonnée, mais en tout cas, j'essaierai d'approcher cette question de l'idée. Qu'est-ce qu'une idée musicale, finalement? Est-ce qu'elle est tout à fait pure? Est-ce que c'est un objet second dont nous héritons? Comment nous devons vivre avec nos propres idées musicales? Je pense que d'un certain point de vue, il faut aimer nos idées, comme des enfants, en fait, parfois les adopter, comme des enfants aussi, et vivre avec ces idées musicales. C'est évidemment vivre aussi avec les idées musicales des autres. Et là, j'arrive à l'autre point du titre, c'est-à-dire figure, portrait, bon, qui faisait partie de la première proposition, et substrat dans l'écriture musicale. Donc aujourd'hui, en fait, je vais m'appuyer sur cette partie de ma musique qui est faite de la musique des autres. C'est une partie de mon travail, ce n'est pas tout mon travail. Je ne sais pas si vous étiez au concert d'ouverture, vous avez peut-être entendu ma partition pour orchestre, enfin notre partition à Bruckner et à moi, qui s'appelle Wunderblock, et qui fait partie de ces différents petits ateliers de ce que j'appelle mon archéologie propédeutique, c'est-à-dire cette manière d'aller vers un référent, c'est-à-dire cette manière de traiter la mémoire et d'en faire un matériau, comme un matériau, je ne dirais pas un matériau trouvé, parce qu'en l'occurrence, s'agissant de Bruckner, ou s'agissant pour vous de compositeurs que vous aimez beaucoup, il arrive que dans notre travail, on s'adosse à des choses qui ont énormément, à des œuvres qui ont énormément compté pour nous. En l'occurrence, Bruckner. Pour moi, parfois des gens se sont étonnés que ma musique, qui est faite de très très courts fragments et qui soit si peu sonore, ait pu avoir une si grande aide de la musique de Bruckner. Mais je crois qu'il ne faut pas se fier à ces rapprochements simplistes. Il se trouve que dans la musique de Bruckner, j'ai trouvé, et nous sommes beaucoup à trouver, une hauteur de vue, une très 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 grande noblesse dans le traitement du matériau, proprement inouï en musique. Et, on en parlait avec Olga l'autre jour, une certaine folie. Et je crois, il y a une phrase de Luigi Nono que j'aime beaucoup, qui disait « il faut suivre ses démons ». Et Bruckner a absolument suivi ses démons. Il a toujours été fidèle à ses démons. Non pas que cela lui ait fait une vie bien facile, mais en tout cas, lui a fait une œuvre absolument conséquente de bout en bout. Et ça, c'est une chose immense, comme est d'ailleurs l'œuvre de Luigi Nono. Je ne sais pas quels étaient les rapports de Nono et de Bruckner. Quant à parler de l'idée musicale, c'est un chemin toujours un peu miné, toujours un petit peu difficile. Parfois, ce qu'on croit inventer n'est pas nouveau. Bon, on n'est pas là pour écrire forcément des choses nouvelles, évidemment. Ça serait tout à fait naïf de se dire « je me mets à ma table pour faire quelque chose de nouveau ». La question n'est pas là. Il s'agit de faire quelque chose de nécessaire. Et ce n'est pas du tout la même chose. Mais il est évident que... compositeur, enfin comme artiste, qui baignons dans une culture, qui avons cette possibilité d'entendre tant de choses, aussi l'enseignement que nous recevons, nous sommes très vite victimes de choses qui seront des figures réflexes. Vous l'avez senti vous-même dans votre écriture, je le sens dans la mienne, c'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre du schéma appris, du stéréotype. On est souvent très victime des stéréotypes. On a tort parfois d'opposer l'académisme et l'avant-garde, car au fond, certaines musiques dites, cette notion d'avant-garde est un peu maintenant obsolète, mais... l'avant-garde a ses académismes au moins aussi forts que la musique dite académique, qui a sa propre liberté. Donc la chose est beaucoup plus terriblement subtile. C'est pour ça que certaines polémiques tombent d'elles-mêmes si on y met tout simplement un peu d'honnêteté et d'intelligence. En tout cas, c'est mon point de vue. En tout cas, je me suis dit parfois que ces stéréotypes, ces poncifs, alors je ne sais pas comment nos traducteurs que j'admire tant vont traduire poncif en anglais, On pourrait dire gimmick aussi. Ça, je pense que ça s'entend parfaitement en anglais, puisque ça vient de l'anglais. Au fond, on peut se dire que affronter les poncifs et les stéréotypes, c'est une manière de les neutraliser. C'est un travail auquel je me suis parfois attablé, d'essayer d'écouter ce qui est un stéréotype et de le réintroduire, de le recueillir avec, pas du tout avec mépris, pas du tout avec condescendance, mais au contraire avec tendresse. C'est-à-dire une forme qui préexiste, ou un morceau de musique, ou une figure musicale très simple, ou un accord, ou je ne sais pas. Toutes ces choses-là sont parfois des stéréotypes, des choses préexistantes que l'on peut accueillir dans notre musique sans a priori négatif. Mais encore faut-il faire ce chemin un peu critique, enfin critique au sens au sens neutre, hein, c'est-à-dire que le fait d'écrire est de toute façon déjà un travail de choix, de discrimination. Enfin, nous devons choisir entre plusieurs objets. Par nature, peut-être parce que je suis un peu sceptique naturellement, par tempérament, j'ai un certain goût de la distance, donc peut-être cela a à voir avec le fait que parfois j'ai traité je me suis emparé de musique qui n'était pas à moi. J'ai toujours un peu de mal, ou en tout cas un peu de suspicion avec le, entendez-le avec des tirets, le « cela va sans dire » de l'expression. Bien sûr, en écrivant de la musique, on s'exprime, mais c'est très réducteur. C'est-à-dire, si s'exprimer, c'est dire seulement ce que l'on pense, je pense que notre travail est beaucoup plus haut, beaucoup plus large, et qu'il est beaucoup plus en connexion avec les autres. Et s'exprimer, parfois, ça serait vouloir se dire qu'on est seul dans son destin face aux autres. Dans notre propre vie, c'est certain. Dans notre art, c'est plus subtil. Je pense que la musique est par excellence l'art des associations, exactement comme l'art poétique. Qu'est-ce que c'est que faire de la poésie ? C'est justement le mot-clé de l'art poétique, c'est l'association. Et associer, c'est composer. Hein ? En français, composer, c'est mettre bout à bout des choses. Je remarque aussi, bon, c'est une petite remarque philologique en écho avec nos soirées avec Mario, on aime beaucoup la philologie. Composer en français, ça peut vouloir dire aussi faire avec. Par exemple, si vous êtes avec des gens très ennuyeux ou très turbulents et vous devez passer 3 jours avec ces gens qui vous sont insupportables, alors pour que la vie soit bonne, vous allez composer avec, c'est-à-dire vous allez faire avec. Et parfois, composer, au sens fort, c'est effectivement faire avec. Alors, faire avec quoi ? Avec soi, avec ce qu'on a reçu, qui est une masse à la fois active et neutre, et puis le rapport à l'autre, évidemment. Le pire dans notre métier de compositeur, c'est le malentendu. Mais on peut aussi utiliser le malentendu, c'est-à-dire mal comprendre une chose, puis la déformer, peut être une manière de rétablir l'entente. Ce que je dis a l'air un petit peu compliqué, mais c'est une connexion d'idées qui, pour moi, sont en vérité toute la grandeur et parfois la douleur du fait d'écrire de la musique. Voilà, si j'avais souhaité que Jean de La Fontaine, le fabuliste français, compose une fable supplémentaire, j'aurais voulu que ça soit le coucou et le castor. Alors pourquoi le coucou ? Parce que le coucou, c'est un des rares oiseaux qui fait son nid dans le nid des autres, c'est-à-dire qui prend le nid des autres oiseaux, quand les oiseaux sont partis. Et donc ce soir, moi je vais parler de cette coucou musique, si on peut dire, c'est-à-dire ce fait que j'ai parfois fait ma propre musique dans la musique des autres, et peut-être je ferai ma propre musique par votre musique, parce que vous m'avez dit de votre musique. Parce que je ne crois pas qu'on puisse enseigner à quelqu'un si on ne lui prend pas quelque chose. Donc, je vous ai peut-être donné quelque chose, mais je vous ai pris quelque chose. Et donc, c'est ça, le coucou. Alors, le castor, c'est autre chose. Vous savez, il construit sa maison comme ça, sur la rivière, avec toutes sortes de matériaux hétérogènes. Et il arrive, avec ses pattes de devant uniquement et ses dents, à faire des maisons extrêmement solides, des barrages, mais avec toutes sortes d'objets trouvés. Donc, ce que j'aime dans le castor, c'est le fait qu'il est patient, il est sage, il est têtu, et je crois qu'en art, il faut être têtu, encore une fois, suivre ses démons. Et puis, il est malicieux. Et je crois que parfois, en art, c'est utile. Non pas pour tromper les gens, non pas pour les inganare, mais peut-être pour se surprendre soi-même et peut-être se dépasser, et donc éventuellement porter nos auditeurs un peu plus loin. Donc, c'était une longue introduction, un peu embrouillée, mais elle était nécessaire. Voilà. C'est une démonstration de la force française. J'espère que ça vous impressionne. J'espère qu'aucun tir n'est prévu. Voilà, j'ai tourné ma première page, donc ça veut dire que nous avançons. Donc, je vais baser mon exposé sur un certain nombre d'extraits. J'en ai prévu beaucoup. Probablement, on n'aura pas le temps, donc quand le temps imparti, quand le sablier aura dit non, j'arrêterai. Je n'ai pas prévu de questions après la conférence, d'abord parce que je ne sais jamais y répondre et que ma conférence consiste en questions. Alors, s'il y a des questions après mes questions, on ne s'en sortira pas. Donc, je propose que les questions soient l'objet d'un débat ultérieur, soit dans les jours qui viennent, soit plus tard dans la manière dont nous nous rencontrerons. Ce n'est pas que je fuis vos questions du tout, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais rappeler, avant de commencer cet exposé, les lois que j'appelle dites de Roland Barthes. Il y a deux lois que j'aime beaucoup et qu'il a expliquées parfois dans ses cours, notamment dans sa leçon inaugurale au Collège de France. J'y étais, mais je ne me souviens plus trop la date. Ça devait être en 76, je crois. Donc certains d'entre vous n'étaient pas nés. Il dit, et il le dit en orfèvre, hein, c'est-à-dire qu'il ne le dit pas par coquetterie, « Celui qui parle en sait à peine plus que celui qui écoute, et peut-être parfois moins. » Et cela, pour moi, s'adosse à la conviction qu'en tant que professeur de composition, ce qu'on enseigne le mieux, c'est ce qu'on ne sait pas. Et cela a un nom, cela s'appelle « chercher ». Et la deuxième loi de Roland Barthes, que j'aime beaucoup, qui a affaire au savoir, et nous avons affaire au savoir, hein, ce qu'on croit être notre instinct est en fait est truffé de savoir. Donc, il joue sur un jeu de mots sur le mot sapientia en latin, qui a deux sens. Et voilà sa formule qu'il faudrait graver sur nos armoiries si nous étions duc ou comte. Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse, le plus de saveur possible. Et la sapienza, c'est ça, c'est à la fois le savoir et la saveur. Et notre travail, à nous tous, comme compositeurs, mais aussi comme écrivains, comme peintres, comme poètes, ce que nous sommes tous à notre manière, mais ne pas oublier que nous sommes traducteurs aussi, et là je vous renvoie encore à nos amis si admirables, le travail qu'ils font en ce moment, pour vous donner mes explications très embrouillées dans une langue qui vous soit compréhensible. Le travail que nous faisons, nous, en tant que compositeurs, c'est un travail de traduction. Vous l'avez vu dans les répétitions, parfois nos partitions ne suffisent pas et nous devons faire de la traduction simultanée. Donc, quand on dit que la musique est un langage universel, c'est un très grand mensonge et c'est mieux qu'il en soit ainsi. Je voudrais juste placer en exergue de ces exemples musicaux un petit extrait d'une partita de Johann Jakob Froberger, qui est un immense musicien, né à Düsseldorf, je crois, ou Stuttgart, je ne sais pas, j'hésite. Il est né en 1616 et il est mort en 1667. Il a eu une influence considérable sur l'école de clavier de l'Europe de cette époque, aussi bien en Allemagne, en Italie, qu'en France. C'était quelqu'un de... On pourrait dire que c'était un pré-romantique baroque, puisque c'est sans doute un des auteurs qui a le plus tôt mis du « je » dans sa musique. Et là, je reviens à l'idée d'autoportrait et d'autofiction. Il a par exemple écrit, ce que je vais vous donner quelques minutes comme ça, enfin à peine deux minutes, d'une partita qui s'appelle « Méditation sur ma mort future ». Il est assez rare qu'un artiste ait abordé ces sujets-là. Mais il a fait aussi des pièces très belles sur le fait qu'il a été volé à Londres ou sur le fait qu'on lui a... ou par exemple, il a écrit une partita pour faire passer sa mélancolie. Il a un équivalent français qui est peut-être moins érudit, un peu plus rustique, qui est mort beaucoup plus jeune, qui est Louis Couperin, qui est aussi un musicien très important pour moi. Excusez-moi de vous dire mes préférences. Donc ça fait déjà trois, Bruckner, Froberger et Louis Couperin. Alors je vais voir si je sais manier cette chose-là. Comment on fait ? Voilà, est-ce que ça va marcher ? Vous avez entendu des modulations incroyables. C'est une musique magnifique. Donc la musique des autres, moi, m'a servi parfois de laboratoire, m'a servi de, comment dire, à cultiver une certaine distance critique et puis éviter ce risque de ce qu'Adorno appelait l'infatuation par le matériau. Parfois, les compositeurs, et nous tous, on est absolument obsédés par le matériau. On a raison d'y attacher beaucoup d'importance, mais il faut toujours tenir ce matériau par la bride. Sinon, il devient un cheval fou et il emporte nos intuitions et il emporte tout ce qui aurait été peut-être plus pur. Ce que je vous dis n'est pas une chose contre le matériau, mais... Voilà, il faut se méfier parfois du matériau. Notre curiosité musicale, bien sûr, fait parfois de nous, et là je bats ma coulpe, des pilleurs de tombeaux. Je ne sais pas si vous avez visité l'Égypte, la vallée des rois, où souvent les choses étaient profanées. Donc je vais vous proposer deux profanations amicales, enfin je ne sais pas si ça existe, des profanations amicales, c'est un peu une contradiction dans les termes. Un type de travail que j'ai appelé, parce que c'était des commandes qui venaient d'Allemagne, C'est ce que j'appelle le Nebenstück, c'est-à-dire un morceau à côté. C'est-à-dire je pars d'une partition préexistante et j'essaie d'appliquer mon invention. Alors par exemple, je vais vous parler du Nebenstück 1 que vous entendrez jouer par le quatuor Diotima et par Pierre Butrieux samedi, qui est consacré à la quatrième ballade opus 10 de Brahms. Simplement, j'ai eu toujours cette impression que la mémoire, notre mémoire, était extrêmement contaminée, en fait, notre invention. Et que ce que nous croyions inventer, non pas que nous ne puissions pas inventer des choses, mais était extrêmement proche de ce qui est en nous comme mémoire. Et j'ai voulu prendre cette partition parce qu'au fond, c'était une œuvre que je n'avais pas écoutée et que je n'avais pas lue depuis une vingtaine d'années. Et je me suis dit que ça serait très intéressant que je reprenne cette partition, cette très belle ballade de Brahms tout jeune, je ne sais pas, il avait 21 ans je crois, quand il a écrit cette ballade pour piano, et de me dire, il serait intéressant de voir comment la mémoire que j'ai de cette musique, alors j'ai travaillé qu'une partition bien sûr, mais je veux dire par là que je n'avais plus fréquenté cette musique autrement que par la mémoire, et de voir combien ma mémoire était absolument proche de ma manière de penser ma propre musique, c'est-à-dire ma propre instrumentation, mes propres matériaux musicaux. Et donc j'ai voulu voir comment ces deux éléments coagulaient, pour ainsi dire. J'ai pris, pour expliquer ce projet, qui peut paraître éventuellement anecdotique, mais pour moi il ne l'est pas du tout, la métaphore d'un objet qu'on laisserait tomber dans la mer, vous savez. Alors là, c'est les pilleurs d'épaves, vous savez, un bateau coule. Et on retrouve un objet des siècles plus tard, et cet objet est totalement oxydé, ou alors il est recouvert de corail. Alors, c'est intéressant parce que ce qui le recouvre à la fois le cache et le souligne. Et dans cette démarche que j'ai faite autour de cette musique de Brahms, en lui appliquant, en somme, mon traitement acoustique, ma manière de penser les sons, alors j'ai effectivement, en soustrayant cette musique, je l'ai souligné à ma façon. Alors je vais vous faire entendre d'abord, vous remettre en mémoire peut-être l'original. Je vais voir si j'ai gardé une maîtrise de... Alors, attendez, comment ça marche ? Voilà. Un peu, bon, je pense qu'il vous revient en mémoire. Alors maintenant, je vous le fais entendre dans ma mixture, dans ma recette. Il s'agit un peu comme dans Wunderblock, mais Wunderblock, le propos était un tout petit peu différent, de donner une vêture instrumentale qui aille chercher la musique qui est derrière toute musique. J'ai toujours eu cette idée que derrière chaque musique, il y a une autre musique, qui lui est parfois simultanée. Chez Beethoven, elles sont absolument simultanées. Et c'est une manière d'objectiver cette chose. Si vous pouvez pousser un peu. Thank you. Dans cette expérience-là aussi, instrumentalement, avec les interprètes, j'aime bien ce travail parce que, au fond, c'est aussi chercher non pas la musique qui est derrière, mais aussi une musique qui est loin. Et c'est aussi notre travail de chercher une musique qui est loin, parce qu'on ne l'a pas encore rejointe. Et cette sorte de... je pense qu'on peut avoir ce sentiment d'épiphanie quand on va chercher si loin et qu'on apporte avec tellement de fragilité une musique qui prend presque un fruit différent. Il ne s'agit pas de recharger Brahms, enfin de lui redonner ce qu'il n'aurait pas, mais simplement de décaler notre écoute. Et c'est notre travail, décaler notre écoute. Alors le deuxième Nebenstück, qui était commandé aussi par, je ne sais plus par qui, par Cologne, je crois, l'orchestre Cologne. Là, c'était un projet un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez que le peintre américain Rauschenberg, en 1953, avait effacé un dessin de Wilhelm de Kooning. Et puis, il avait exposé ce dessin effacé comme tel. La différence, c'est qu'évidemment, de Kooning était consentant, alors que Bruckner, évidemment, ne, puisqu'il était mort, je n'ai pas pu lui demander. Il y avait le projet est un petit peu différent dans le Wunderblock. Je vais essayer de l'expliquer, mais c'est assez difficile. C'est-à-dire, je crois j'ai pratiqué moi une certaine, ce que j'appellerais la magie par le vide, donc une sorte de suffocation ou d'étonnement qui nous vient du silence, enfin, ou du fait que il va falloir, on dit plisser les yeux pour voir mieux, mais je pense qu'on pourrait plisser les oreilles, c'est-à-dire essayer de s'approcher d'un objet, donc renverser le contrat d'écoute avec l'auditeur. C'est ce que j'ai essayé de faire. Évidemment, c'est un peu ambigu parce que dans cette magie par le vide, en tout cas, c'est ce que disait Lahrenmann sur ce travail que j'ai fait dans Bruckner, on est forcément entre quelque chose de très doux et de très... très, pas dur, mais en gros, on est entre le miel et le venin, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement suave et quelque chose d'extrêmement dangereux. On manie quelque chose d'explosif. Wunderblock, qu'on traduirait, comment on traduirait, Olga, morceau de merveille ou un bloc de merveilleux, c'est ça ? Wunderblock, ce serait quelque chose comme ça. C'est en fait une petite machine un peu inefficace qui a été imaginée par Sigmund Freud en 1924. Alors là, je lis un peu précisément la description, parce que c'est un peu compliqué. Moi-même, je ne l'ai jamais utilisé, évidemment, puisqu'il n'existe plus. Alors, c'est un système d'écriture. Ils m'ont dit de parler lentement quand je lis. Comment ? Ça existe encore ? Ah oui ? Mais on le voit où ? Mais on le voit comme un objet de musée. Ah oui ? Ah bon, très bien. Ben ça, il faudra qu'on fasse cette recherche alors. Donc c'est un système d'écriture permettant, par une feuille de celluloïde dite par stimulus et une feuille de papier ciré translucide appliquée, toutes ces deux feuilles, sur une tablette de résine. Ça permet donc d'écrire par un stylet, une sorte de petit crayon. C'est-à-dire qu'à la fois dans un même mouvement, on écrit et on efface. Et il s'agit de ça, évidemment, dans ma partition. Freud, qui se méfiait de la mémoire, essayait de trouver, par ce petit appareil imparfait, une analogie avec le système à double fond de la perception, qui ne garde pas de façon durable le stimulus, tout en l'enregistrant. Donc c'était exactement le propos de cette pièce. Je vous remets en mémoire le début de la... C'est le maestoso de la 6e symphonie de Bruckner. Et comme souvent, chez Bruckner, ça commence par un fond de cordes, très souvent, ses premiers mouvements. Donc je vous le remets en mémoire. Alors voyons si que je ne me trompe pas de... Non, alors ça c'est pas ça c'est. Mmh. je vous propose maintenant le début de ma propre version. Les différences, bon, j'en ai fait une pièce avec un accordéon soliste. Dans cette idée de Wunderblock, il y avait aussi l'idée de faire de cette musique magique quelque chose qui serait presque du monde de l'enfance, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez entendu dans le concert, mais il y a des boîtes à musique, ce qu'on appelle des serinettes en français, c'est un mot du 18e. Il y avait des vers accordés, il y avait des apôts, c'est-à-dire des instruments qui imitent les oiseaux. Voilà. Et j'ai fait une translation qui, j'espère, n'est pas prise comme un blasphème. Vous savez qu'Anton Bruckner était organiste, qu'il était extrêmement pieux, très très croyant. Et en fait, je donne une version comme ça, un peu plus populaire et surtout un peu plus portable, puisque un grand orgue, on ne l'a pas dans sa chambre d'enfant. Donc l'objet est là. Par contre, le sacré est remplacé par un harmonium, qu'on entendait peu d'ailleurs le soir du concert, mais qu'on entend mieux là, qui est un orgue électrique épouvantable, mais qui donne une couleur un peu le kitsch à un côté parfois merveilleux aussi. Alors attendez. J'ai étiré souvent les répétitions, parce que Bruckner se répète beaucoup. Le fait que j'ai étiré les dimensions, c'était pour mettre en valeur ce fait si étonnant que Bruckner ait vraiment été parfois un répétitif, enfin quelqu'un qui utilisait des panneaux, des séquences comme ça, qui tournent en rond à la fin. C'est une chose qu'on retrouve aussi chez un autre grand catholique qui est Messiaen, qui a travaillé comme ça par panneaux successifs. Maintenant, autre manière d'envisager cette sorte de phagocytage d'une chose qui existe déjà, c'est les tropes. Vous savez que les tropes, au Moyen-Âge, c'était une manière en fait, de partir d'un matériau déjà existant, un cantus firmus, par exemple, et d'en étirer les valeurs, de les distribuer, de les croiser, ou voire même d'ajouter parfois des paroles, ce qui pouvait se faire. Il y a eu un projet qui était lancé par l'ensemble Recherche, qui était de commander à énormément de compositeurs. Je crois que Olga l'a fait aussi, entre autres, mais beaucoup d'autres compositeurs, Charino, Ferneo, Wolfgang Grimm, j'en oublie mais énormément, Johannes Schulhorn, ont donc écrit une œuvre tout à fait libre, évidemment. Il n'y avait pas de règles à suivre. Simplement, il fallait, d'une certaine manière, prendre en compte le cantus firmus. Donc, j'ai écrit cette petite pièce que vous avez écoutée hier au concert, si vous y étiez, que je vais vous faire entendre. Elle est très, très courte, qui s'appelle Rebus, et qui utilise donc les 54 notes de ce thème innominé qui venait de la messe à six voix Gloria Tibis Trinitas de John Taverner, écrite, on pense, vers 1528. Et ce Cantus Firmus, on ne sait pas pourquoi, a eu une fortune critique énorme. Il a été utilisé déjà dans l'époque élisabéthaine et beaucoup plus tard, et des compositeurs comme Richard Strauss, par exemple, l'ont encore utilisé. Et donc récemment, il y a eu toutes ces partitions jouées par l'ensemble de recherche. Ce que vous allez entendre musicalement est très très simple. Je n'utilise à une seule exception près un do dièse dans le grave que les notes en mode de ré donc du cantus firmus innominé, et simplement ce sont des agrégats, mais je dirais sur les touches blanches, avec des trous entre chaque agrégat qui permettent de suivre le cantus firmus. Et le cantus firmus est terminé de manière un petit peu rapide, comme une sorte de cantilène, un peu comme une manière de pirouette, pour pas finir de manière trop grégorienne. Alors, est-ce qu'on y est là ? Attendez. Ensuite, autre manière de faire des tropes. Donc, comme je vous l'ai dit, on pouvait faire des tropes de deux manières. Il y avait les tropes mélogènes, c'est-à-dire qu'à partir de paroles du culte, on pouvait générer de la mélodie. Mais il y avait aussi l'inverse, qui était des tropes logogènes, c'est-à-dire à partir d'une mélodie, on introduisait du texte. Et d'ailleurs, cette pratique qui a duré très longtemps, au XVe siècle, jusqu'au début du XVIe siècle, introduisait y compris des textes profanes sur des cantus firmus qui étaient à l'origine sacrés. Alors, j'ai fait encore quelque chose qui est une forme de Nebenstück, mais je le mets dans les tropes, parce que là, il s'est agi d'ajouter des paroles dans une œuvre préexistante qui n'en avait pas. Alors là, j'ai utilisé une œuvre que vous connaissez tous, je pense, aussi parce que je l'aime, mais pas seulement pour ça, mais parce que cette œuvre est devenue, comme il arrive parfois de certaines œuvres, un peu chosifiée, c'est-à-dire qu'elle est devenue presque un stéréotype de la beauté musicale. Je veux parler de l'Adagietto de la 5e symphonie de Gustav Mahler, qui avait été particulièrement mis à la mode par le film de Visconti, La mort à Venise. Il se trouve que dans ce projet-là, que j'appelle Kein deutscher Himmel, je vous expliquer pourquoi la piste vénitienne est assez importante. C'est Martin Kaltenecker, qui est un musicologue allemand mais vivant en France, qui a fait pour moi, qui a trouvé des textes sous la musique de Mahler, mais que j'ai écrit pour chœur. Et il a trouvé des textes d'un poète qui est poète un peu formaliste, qui s'appelle August von Platen. C'est pas un immense poète, mais il se trouve qu'il a vécu une grande partie de sa vie à Venise. C'était un aristocrate et enfin en Italie plus généralement. Il est mort d'ailleurs. Il est mort à 39 ans en 1835 à Syracuse du choléra. Or, si vous vous souvenez, Gustav von Aschenbach, dans la mort à Venise, meurt du choléra, lui aussi. Il se trouve que August von Platen avait été en Italie parce que c'était un peu son, comment vous dire, des tropiques où il pouvait exprimer son amour des garçons, qui n'était pas une chose facile pour un aristocrate en 1830. Et, comme vous le savez, Gustav von Aschenbach est frappé par la beauté d'un jeune homme, Tadzio, si vous vous souvenez de la nouvelle. Et il se trouve que Thomas Mann, qui est l'auteur de Mort à Venise, a fait son premier travail de maîtrise ou de doctorat, je ne sais plus, sur August von Platen. Donc vous voyez que tout ça est très intriqué. Donc les textes sont tirés d'élégies vénitiennes et aussi du propre journal de August von Platen. Et quand il débarque à Venise, son premier mot, c'est « pas de ciel allemand »,« kein deutscher Himmel ». Voilà, donc il se sent libéré de ce ciel-là. Donc vous allez entendre ce début. On pourrait considérer que le travail que j'ai fait est une manipulation, une sorte de post-synchronisation, on pourrait dire, ou on pourrait parler aussi de karaoké abusif, disons. Alors, c'est pas ça du tout. Alors, attendez, c'est pas grave. On va pas s'énerver. Voilà, je vous remets en mémoire le... Donc, j'insiste sur le fait que j'ai choisi cette œuvre, d'abord parce que je l'aimais, mais qu'elle prenait, enfin, si vous allez à Venise, elle est mise à toutes les sauces, à toutes sortes d'arrangements. Donc, le mien, au fond, n'est qu'une péripétie de plus. C'est un peu comme la laitière de Vermeer qui se retrouve sur des yaourts. Donc, c'est une manière aussi de dire qu'une œuvre est à tout le monde, en somme, qu'on peut l'utiliser tout en la respectant, évidemment, parce que j'ai une affection profonde, absolument profonde, pour la musique de Mahler. Vous remarquerez que j'ai utilisé un mot allemand pour faire la partie de harpe au début, et c'est le mot gondol, la gondole. Donc c'est ce mot rythme, comme ça, cette chose-là. Et ça nous rappelle le début du film, quand Dirk Bogart arrive comme ça dans la ville de Venise. Alors, est-ce que ça va être le bon cette fois ? C'est des Français, ils prononcent très mal, on ne comprend pas la langue. Voilà, je parle maintenant de substrat, ce que j'ai appelé le substrat, c'est une chose qui est à l'origine d'une autre. Par exemple, on peut dire que le latin est le substrat de la langue italienne, de la langue espagnole, de la langue française, par exemple. En chimie aussi, le substrat, c'est un élément sur lequel un autre va réagir. Et au fond, il s'agit de ça dans ce travail que je fais. Enfin, d'ailleurs, j'ai remarqué que le vocabulaire chimique, vous devriez aller y voir, nous qui souvent manquons de mots pour expliquer notre travail, la chimie propose beaucoup de métaphores ou en tout cas de processus qui sont extrêmement utiles. Je vous encourage à aller voir des dictionnaires de chimie et vous verrez que c'est très utile aux compositeurs. Et puis pour le coup, le dictionnaire n'est pas dangereux, contrairement aux éprouvettes. Il y a évidemment dans le substrat, je parlais de la langue, la question de la langue. Changer la langue ou changer le langage, c'était le souhait de Mallarmé, comme vous savez, du poète français. Et puis changer la langue, changer le langage, c'est changer le monde. C'est par exemple le projet marxiste. Donc les choses sont toujours un petit peu liées. Le substrat peut ne pas être musical, mais peut-être, enfin en tout cas, peut se présenter sous une forme littéraire. Par exemple, j'ai écrit une pièce en 98 qui s'appelle « Bruissant divisé » et qui est un hommage à Vinteuil. C'est un compositeur qui a beaucoup compté pour moi. À vrai dire, il n'existe pas tout à fait, puisque c'est un personnage du roman de Proust, « La recherche du temps perdu ». Mais pour autant, c'est un artiste fictif, mais auquel j'ai beaucoup pensé. Enfin, j'ai fait d'ailleurs des travaux sur son œuvre, qui ne nous est pas parvenue, mais si ce n'est par des descriptions de Proust. Un producteur de cinéma qui s'appelle Maurice Rabinovitch avait proposé à des compositeurs de faire un film. Le projet était un petit peu naïf, qui s'appelait « À la recherche de la sonate de Vinteuil ». Donc, ça sentait ses gros sabots quand même. Et il avait proposé à plusieurs compositeurs, il y avait Régis Campeau, Marius Constant, Philippe Hersant et moi-même, de prendre des descriptions que fait Proust de la sonate de Vinteuil pour écrire une musique. Alors je trouvais cette chose très excitante. Jamais j'aurais imaginé de travailler sur Proust, qui pour moi a été un artiste tellement déterminant dans mon travail. Mais finalement, j'ai relu les descriptions, non seulement les descriptions de la sonate de Vinteuil, mais aussi du Septuor qu'il écrit à la fin de sa vie et qui est une œuvre posthume qu'on entend beaucoup plus tard quand Vinteuil, par ailleurs obscur professeur de piano de province, est mort et qu'on ne découvre qu'après sa mort qu'il est un très grand artiste. Donc voilà la description que Proust fait de la musique de Vinteuil, y compris du Septuor. Donc il parle de brouillard violet, il parle du rappel constant de deux notes que vous allez entendre dans ma pièce, le mouvement mélancolique incessant et rapide, que vous allez entendre aussi, des motifs qui par instant émergent, à peine discernable, pour replonger aussitôt, disparaître. Alors là, j'avais l'impression que Proust parlait de ma propre musique. C'était un excès, évidemment, d'immodestie, mais il parlait de la liquidité, du fondu, de l'aigre silence, du vide infini, de la douleur inapaisée. je ne sais pas comment ça se dit en anglais, d'une musique rétractée, frileuse, d'un son qui s'altère à tout moment, s'estompe pour indiquer une ombre et jusqu'au moelleux arrière-plan de silence qui pacifie certaines rêveries de Schumann. Donc vous allez entendre, j'ai utilisé en fait deux instruments, le violon et le violoncelle, mais j'ai voulu en faire un seul instrument. Vous verrez qu'il joue en fait dans le même registre. C'est pas du tout ça, c'est terrible ça. Mais pas du tout. Voilà. C'est donc les deux notes qui reviennent dans la description de Proust. Quand je réfléchissais à Vinteuil, qui il aurait pu être, bien sûr, il faut tenir compte de la chronologie. Si on tient compte de la naissance du narrateur, qui est tout de même un peu Marcel Proust, alors là, comme autofiction, Proust est quand même le champion. Vinteuil serait né dans les années 1840, de sorte que moi, je l'avais souvent, comme ça, par pur fantasme, fait ressembler à Scriabine, mais en fait, il faut rechercher ailleurs, sans doute, des ressemblances. Il y a une autre... je voulais juste préciser que ce fait d'utiliser des musiques préexistantes, évidemment, est une chose qui a toujours existé, qui était beaucoup plus libre, d'ailleurs, et beaucoup plus courante à l'époque baroque, où il y avait énormément de décalques. À l'époque romantique, c'était un petit peu différent, puisque souvent, c'était des manières de faire circuler la musique, notamment l'opéra, sous forme... Donc, ça serait très intéressant de faire, je pense, une histoire de la musique sous ce jour-là, c'est-à-dire comment les musiciens se sont réutilisés eux-mêmes. C'est donc la technique du coucou, comme je le disais. Cela dit, quand le coucou prend un nid, c'est pour couver ses propres œufs, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il pense aussi à sa propre descendance. Il y a une autre manière, peut-être un peu plus brève, d'utiliser la musique des autres, c'est le sample. Hein, vous savez ce que c'est qu'un sampleur. Donc j'ai écrit une pièce qui s'appelle une gigue, c'est une chose dansée, enfin c'est une pièce de concert, pour six percussionnistes. Et j'ai voulu imaginer une sorte de requalification de la technologie, c'est-à-dire qu'en fait cette pièce est une pièce où les instrumentistes utilisent des objets de la vie courante, notamment des choses de bricolage, des scies, des perceuses, des rasoirs, des pots de fleurs, des choses assez utiles. C'est ce que j'ai appelé, pour citer René Char et Boulez, l'artisanat furieux. Et c'est une manière pour moi de dire mon attitude actuellement dubitative vis-à-vis de la technologie. Mais c'est tout simplement mon incapacité à l'atteindre. Je ne dis pas évidemment qu'il ne faille pas le faire. Donc cette pièce est une pièce de circonstance, c'était pour une fête, donc c'est une pièce plutôt amusante, c'est un peu un clin d'œil. Et vous allez entendre, je vous fais entendre le tout début, et vous allez entendre c'est en fait tout bêtement, c'est pas un sample techniquement très élaboré, je voulais que tout soit un peu bricolé, un peu fragile, un peu comme les sculptures du sculpteur suisse Tingly, vous voyez, qui sont faites comme ça, de choses un peu récupérées. Et on entend le début de la sixième symphonie de Mahler, cette fois, pas celle de Bruckner. Et c'est simplement un des percussionnistes qui tourne le bouton du lecteur, là où c'est marqué en rythme. Donc on est toujours en la mineur, mais on ne tombe pas forcément sur les mêmes... C'est un tout petit peu... évidemment le hasard, mais c'est très très bref, c'est une courte double croche, mais quand vous vous entendrez, vous ne reconnaîtrez pas que c'est Mahler, mais c'est tout de même bien Louis. Ah ben non, c'est moi qui dois l'envoyer. Alors attendez, je vais essayer de pas rater mon coup. Ça c'est un marteau, donc un marteau 100 mètres. Un petit extrait de la pièce, enfin, qui n'est pas très longue par ailleurs. Je vous ai parlé dans l'introduction de cette question des idées qui est tellement importante. Qu'est-ce qui fait qu'une idée aboutit? Comment elle germe? C'est un processus toujours extrêmement délicat, toujours passionnant et qui est lié en nous à des choses tellement fragiles, tellement sensibles. Parfois, des idées sont abandonnées. C'est-à-dire, ce sont je pense que vous avez tous dans vos archives des esquisses de choses que vous avez abandonnées ou qui n'étaient pas assez mûres pour arriver. Est-ce qu'il y a une seconde chance pour les idées abandonnées? C'est une question que je me suis posée et donc j'ai réutilisé mes propres idées abandonnées. Donc en fait, j'entrais dans la musique d'un autre, c'est-à-dire celui que je n'étais plus. Et c'est aussi une manière toujours de traiter le même sujet. Il y a un mot je n'ai pas un très bon accent anglais, mais il y a un mot de Glenn Gould que j'aime beaucoup. Vous savez qu'il avait horreur des concerts et il préférait le studio. Il n'aimait pas les concerts parce qu'il y avait cette notion du « no to takeness », c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre une deuxième fois la chose. Et cet aspect du direct était une chose qui le terrifiait. Et je me suis donc demandé comment faire une partition avec des idées, on dirait, avariées ou tournées, comme le lait qui est tourné, enfin, je ne sais pas, des idées qui ont été éliminées. Donc j'ai écrit une pièce qui s'appelle « Mes béatitudes ». Ça renvoie un petit peu, c'est un petit clin d'œil à une pièce un tout petit peu, je dirais, Saint-Sulpicienne de César Franck, qui s'appelle « Les béatitudes », mais pas « Mes béatitudes ». Et j'ai donc rassemblé dans une, ce que j'appelle une forme traversée, une sorte de narration de l'échec, une suite d'idées non abouties. Et finalement, quand vous les mettez bout à bout, elles marchent très bien. Donc, il faut toujours garder les idées non abouties. Elles peuvent resservir. Et là, nous retombons là dans l'histoire de Tinguely, c'est-à-dire de la récupération, du recyclage. Donc il faut aimer ses idées, je dis toujours à mes étudiants qu'il faut aimer avec loyauté ses idées, même les plus mauvaises. Une mère aime son enfant handicapé comme les autres. Et donc mes béatitudes, c'est ça, c'est une manière de redonner une forme d'énergie, d'essayer de rassembler des choses fragiles et peut-être non avenues. Donc je vais vous faire écouter le tout début de mes béatitudes. Bon, là, il n'y a pas de modèle à reconnaître, puisque le modèle, c'est moi-même raté avant. C'est pour trio, accord et piano, j'ai oublié de dire. Vraiment pas doué pour la technologie, vous voyez à quel point. Il se trouve que au milieu de la pièce, il y a une sorte de, je n'appelle pas ça une citation, mais un hors-texte, quelque chose qui est une stèle en l'honneur de Bruckner et qui est une vêture telle que vous avez pu l'entendre dans mon expérience de Nebenstück. Une vêture du deuxième mouvement, du deuxième thème, du deuxième mouvement de la septième symphonie de Bruckner, qui pour moi est un des plus beaux thèmes jamais écrits. Et vous verrez que ce thème arrive comme ça progressivement, puis il y a un silence, et donc il n'est pas tramé dans ma propre musique. Et il est donné en toute fragilité. J'ai d'ailleurs même souhaité que, quand les musiciens qui sont l'ensemble recherche l'ont joué, il ne cherche pas à rendre ça comme une chose parfaite, mais au fond comme une chose qu'on a dans ses mains et qui est trop, trop belle pour nous. Alors attendez voir. Donc là, c'est ce qui précède la citation. Le hors-texte. Mmh. entrons dans cet espace où il y a la stèle. Je vais vous parler d'une autre partition qui est un petit peu plus récente, je ne sais plus trop quand, mais il y a 3-4 ans, je pense, qui s'appelle Cassation et qui est un peu le pendant de cette partition Mes Béatitudes. C'est-à-dire c'est la même formation, mais une clarinette en plus. Et là, c'est une rencontre un peu étrange, c'est-à-dire que parfois la mémoire est involontaire, hein, comme vous le savez, comme Proust l'a rappelé. Et il se trouve que dans mon matériau, il y a eu une coïncidence entre ce que j'avais élaboré harmoniquement et une petite pièce très très courte, peu connue de Wagner, qui sortait d'un carnet d'esquisses de l'époque de Tristan. Et il a retravaillé cette pièce et il l'a offert à sa femme Cosima pendant l'hiver 1882. Ils étaient à Palerme à ce moment-là. Et donc dans la pièce, à un moment, je me suis aperçu de cette coïncidence ou au fond de cette réminiscence involontaire. Donc je l'ai assumée et à la toute fin de Cassation, on entend exprimer par les archets, alors que le trio à cordes joue sans archets pendant toute la pièce qui dure quand même 20 minutes. Et ils prennent l'archet pour exprimer ce thème qui est lié aussi un peu bizarrement avec la dernière scène du, je ne sais plus le titre de ce film, mais ce film de Visconti sur la vie de Louis II de Bavière, qui était, comme vous savez, le financier, enfin en tout cas le comment on appelle ça, quelqu'un qui donne de l'argent à un artiste, le mécène, voilà, mécène très généreux et très admiratif. Si on pouvait trouver un Louis II de Bavière, certains d'entre nous, ça nous arrangerait bien. J'ai lancé un appel, mais qui est resté muet jusqu'à maintenant. Donc on va entendre cette fin. Mais non, c'est pas du tout ça. Un piano préparé, hein. Je vais vous faire entendre le début de Cassation, parce que là, ce n'est pas la musique de quelqu'un d'autre, c'est la mienne, mais elle utilise des empreintes ou je ne dirais pas des formes, la cassation, vous savez, c'était une forme du 18e qui était une sorte de divertissement, mais qui pouvait être aussi une manière de marquer un adieu ou le départ d'une personnalité. Et donc j'ai écrit cette partition et je l'entends un petit peu comme une sorte de sérénade toccata dans ce rêve que j'ai, qui est un peu difficile à exprimer, où, vous savez, une toccata, ça servait à vérifier l'accord. Et je me dis que parfois, la musique, à la fois on vérifie et on joue en même temps. C'est le principe de la toccata. Et j'avais cette idée qu'au fond, les musiciens, enfin les instrumentistes, répétaient en même temps qu'ils jouaient. C'est-à-dire qu'ils traversaient la musique d'une manière par tâtonnement, en fait. D'où ce fait qu'ils n'utilisaient pas l'archet. Le trio à cordes n'utilise pas du tout l'archet, mais utilise les instruments quasi-guitare, en fait. Toujours, soit avec un plectre, soit avec les mains. On pourrait dire que c'est un braille auditif surtitré, j'ai appelé ça. Hein, je ne sais pas si ça se traduit bien en anglais, ça. Braille auditif surtitré. C'est aussi ce que le peintre Simon Antaille appelle la mutilation qualifiante. C'est-à-dire, on a un sens en moins, mais comme on a un sens en moins, alors, vous savez, les aveugles, par exemple, ont un sens du toucher exceptionnel et des dispositions pour la musique qui dépassent souvent les nôtres. Donc, c'est ce que j'ai voulu objectiver dans cette chose-là. Mais ce que vous allez entendre est finalement une musique assez joyeuse, tant il est vrai que les sourds sont tristes et les aveugles sont gais. C'est absolument jamais ce que je veux. Voilà. Je vais terminer, puisqu'on a bientôt, je ne voudrais pas dépasser l'heure, vous devez avoir faim. Je vais terminer en parlant d'une pièce un petit peu plus récente qui s'appelle Rescousse, où j'ai essayé de pousser plus loin cette idée de l'indexation des idées autres, mais enfin qui sont aussi nos propres relevés de lecture. L'idée est venue en lisant une poétesse américaine qui est contemporaine, qui s'appelle Susan Ho, et qui a écrit un livre traduit en français qui s'appelle Marginalia de Melville. Et son idée est merveilleuse, elle est allée voir dans les livres de Melville les annotations que faisait Melville dans la marge, et elle les commente. Et en fait, contrairement à, dans mes béatitudes, je prenais des idées qui étaient mes propres idées loupées, et là, au contraire, j'ai pris toutes les notes, moi, que j'avais prises dans, pas dans des marges, mais dans des carnets, c'est-à-dire des choses musicales que j'avais notées, qui m'avaient frappé. Il se trouve que j'écris un journal, un diario, on dit en italien, caro diario, et dans lequel je note parfois cette chose musicale qui m'a intéressé. Et donc, dans cette recherche que je fais de formes traversées, et qui sont donc des narrations, et au fond des traversées auto-fictionnelles, ce qu'on appellerait des biographèmes, j'ai donc créé cette pièce avec des idées qui ne sont pas les miennes, mais qui sont tellement cryptées qu'on ne les reconnaît pas beaucoup, je vous le dis tout de suite. Mais je vais quand même vous les donner à entendre. J'ai souvent cette impression que quand nous créons cette langue, ce langage qui est le nôtre, que nous croyons inventé, on crée en fait une sorte de ce qu'on appelle un pidgin. C'est-à-dire, c'est une langue qui n'appartient à aucun des interlocuteurs. C'est ce qu'on appelle une langue contact ou une langue auxiliaire. Et donc, vont s'y exprimer tout ce qui est utile à la compréhension entre des personnes qui n'ont pas la même langue, c'est-à-dire nos stéréotypes, nos gimmicks. L'étape suivante, évidemment, ce serait ce qu'on appellerait la pensée créole. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, notre langue devient forgée sur une langue préexistante. C'est ce que j'appelle la créolisation de la pensée ou de l'imaginaire. Ça paraît un peu complexe, mais c'est au travail, en tout cas, dans notre musique. En tout cas, voilà, donc le dernier extrait que je vous propose, j'en avais prévu bien d'autres, mais dans ces cas-là, c'est difficile de calculer le temps. Voici donc le tout début. Alors, vous allez entendre d'abord... c'est quelque chose qui a démarré, là ? Bon, on va voir dans une... Enfin, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, il y a une construction séquentielle. Je vous dis tout ce qui est mis dans cette musique, mais je ne vais pas vous la faire entendre parce qu'elle est très longue, ça dure 25 minutes. On entend d'abord un vers de Susan Ho, traduit en français, « Refrain, mon shibolette ». Shibolette, c'était un mot hébreu pour passer, une sorte de mot de cryptique pour passer une porte. Ensuite, une chanson d'Angleterre, « All things are quite silent », de 1830. J'ai une passion pour les vieilles chansons anglaises. Ensuite, on entend un rythme d'Ockniak de Messiaen. Ensuite, on entend un autre rythme de Maurice Ravel, qui est le rythme du boléro. Là, je pense que vous l'entendrez. Ensuite, on entend un mode du Maghreb, qui est le mode qui s'appelle « Makam Dil ». Ensuite, on entend une chanson de bienvenue d'Éthiopie. Enfin, quand je dis qu'on entend, on n'entend en fait rien du tout, mais c'est un matériau qui est profondément retravaillé. Ensuite, on entend un accord de ut majeur en quarté sixte. Ensuite, on entend une autocitation de l'opéra que j'étais en train d'écrire, d'après l'Astrée d'Honoré d'Urfé. Et ensuite, bah écoutez, j'ai plus les pages, donc vous ne saurez pas ce qu'on entend. Mais de toute façon, on ne l'entendra pas comme ça, ils ne sauront pas qui c'est. Voilà.
Thank you.
Messiaen. Le boléro de Ravel. Et au centre de la partition, il y a une sorte de transcription d'après Conan Onkaro, que vous connaissez. Et d'abord parce que c'était lié à un programme qui avait été commandé par Cologne autour de la musique mécanique. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et aussi puisqu'il s'agissait de marge, le sous-titre de Rescousse, c'est Marginalia. Il est évident que dans les cartes perforées que faisait Onkaro, tout était texte, tout était marge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge, c'est-à-dire que la musique elle-même est toujours la marge et toujours le fond du texte. Voilà, c'était l'ensemble moderne qui jouait ça. C'est un disque qui va sortir, si on veut bien trouver un label. Sans parler de Louis II, au moins il faudrait trouver un label pour publier ces disques. Voilà, si vous voulez voir quelques partitions, il y en a ici, des choses que nous avons entendues. Je vous remercie de votre attention malgré l'heure tardive. Voilà, merci, à bientôt. Ça, c'est... En fait, c'est Bruckner et moi, disons. C'est une photo de vacances, voilà.